L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Vous le savez, ou peut-être pas, j'ai construit quasiment l'intégralité de ma carrière sur le digital et plus spécifiquement sur les réseaux sociaux. C'est un sujet que je connais bien, qui m'a permis vraiment de m'émanciper dans mon travail, de créer ce podcast entre autres. Et pourtant, bien que je connaisse tous les aspects positifs des réseaux sociaux, je me pose vraiment la question sur l'impact délétère, monumental qu'ils peuvent avoir. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Tariq Rim pour la seconde fois. On avait déjà fait un épisode qui était le numéro 49. Pour essayer de comprendre mieux l'histoire des technologies, l'histoire d'Internet, comment tout ça s'est arrivé et l'impact aujourd'hui des réseaux sociaux sur nos vies élargies, c'est-à-dire évidemment nos vies au niveau individuel, mais aussi nos vies au niveau national, voire européen. Quels sont les impacts, que ce soit des sociétés qui soient américaines, chinoises. Vous allez, je crois, adorer cette conversation qui est profonde, hyper intéressante. Tariq est extrêmement didactique, donc je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Tariq.
Bonjour Greg.
Je suis ravi de te recevoir une seconde fois sur ce podcast. On avait parlé la première fois de Slow Web. En fait, ce qui est intéressant, c'est que toi, encore plus que moi, on est des enfants du Web 2.0, voire toi encore plus du Web 1.0, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on a, enfin j'ai l'impression, en tout cas moi, tu vas me dire pour toi, voué les louanges du web 2.0, des réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, la situation, elle change un peu. J'aimerais bien que tu repartes de là où tu viens pour nous expliquer justement ton cheminement de pensée ensuite.
Ah, waouh! Moi, en fait, pour être tout à fait transparent, je suis un véritable dinosaure parce que j'ai eu la chance, grâce à mon père qui avait une fac extrêmement connectée, d'avoir fait ma première connexion au réseau en 1982. Donc, ça va bientôt faire, l'année prochaine, ça va faire 40 ans. Ça fait très, très long. Et donc, j'ai suivi plein d'époques différentes. Il y a eu l'époque des BBS, donc ces fameux serveurs où on mettait son ordinateur, on le connectait et d'autres personnes pouvaient se connecter, on créait ce qu'on appelait des communautés en ligne. Évidemment, le Minitel qui a été le modem gratuit dont on s'est tous servi pour faire plein de choses. Et puis, le web 1.0, évidemment, avec la... C'est très drôle parce que à l'époque des années 90, le gros sujet, et à l'époque, j'ai travaillé pour Radio Nova et j'étais complètement à fond là-dedans, c'était ce qu'on appelait la cyberculture et notamment la réalité virtuelle. Donc, en fait, l'ancêtre du fameux métaverse. Et puis, effectivement, entre ça, un premier crash en 1999, on a essayé de relancer le web une deuxième fois avec ce qu'on a appelé le web 2.0. Et puis, effectivement, avec NetVibes, entre autres, on a été un peu au cœur de cette révolution. Et ça n'a pas... Enfin, ça a bien marché, mais en fait, rapidement, l'Internet a été consolidé, notamment, je pense, à cause de l'iPhone, qui a concentré les pouvoirs de l'Internet en un petit nombre de mains. En gros, chaque icône de l'iPhone, c'était un milliard d'utilisateurs. Et il y a des boîtes nouvelles qui se sont construites, hein, ce qu'on a appelé aux États-Unis les licornes, pour devenir des services essentiels pour l'iPhone. Et donc, ça a totalement transformé l'Internet, qui est devenu, en fait, une sorte d'organisation de notre vie sur le téléphone. Et puis aujourd'hui, il y a une autre direction qui est prise, notamment avec le Web 3, qui à mon avis est beaucoup plus générationnelle, parce que quand on regarde, la façon dont le Web est utilisé, notamment sur le Web 3, dans ce qu'on appelle la crypto parfois, c'est aussi une façon, pour une certaine génération, la génération Z, de se dire, vous avez construit un univers qui nous convient pas. Un système financier qui finance cet univers, ce monde qui nous convient pas, on va construire notre propre utopie. Et donc, d'une certaine manière, ce qui est très intéressant, c'est que historiquement, la vision la plus crédible de ce que l'on vit aujourd'hui, c'est William Gibson qui l'a écrite dans un livre culte qui s'appelle Le Neuromancien, qui a été un peu le fer de lance de ce qu'on appelait le mouvement cyberpunk. Et le problème du monde cyberpunk, c'est que c'est invendable, c'est une dystopie où les entreprises contrôlent le monde, seuls les hackers peuvent éventuellement nous sauver. Et évidemment, ça, c'était pas vendable. Et donc, dans les années 90, on a eu un changement complet sur la question du cyberespace. Et on a dit, en fait, le cyberespace, c'est cette nouvelle espace cool qui s'appelle l'Internet, dans lequel on va construire des startups. On a créé ce qu'on appelait la techno-utopie. Et puis progressivement, évidemment, cette techno-utopie, on a été beaucoup à y croire, hein, moi le premier.
Ouais, c'est ça.
Et aujourd'hui, tu te rends compte qu'on a en fait laissé un certain nombre de monopoles se construire, bien plus puissants que ce qu'était Microsoft dans les années 80. Pour ceux qui se rappellent que Microsoft avait quasiment la domination des ordinateurs de bureau. Là, on a 5-6 sociétés, si on en prend une chinoise, qui ont la domination totale de nos vies numériques. Et ça, c'est effectivement un problème.
Et en fait, juste pour rappel, que tu ne le dis pas de manière assez humble, mais en fait, tu étais un des plus grands entrepreneurs français à ce moment-là, parce que NetVibe, ça a été un succès mondial. Et pour ceux qui ne connaissent pas, forcément, c'est qui n'étaient pas là, en fait, tout simplement, à ce moment-là. Ça a été vraiment une révolution. Et donc, tu as suivi de près, et donc, tu es extrêmement proche aussi de tout ce qui construit. Enfin, toutes les personnes qui ont construit ce web dont on parle, que ce soit Marissa Mayer, etc. Donc, tu connais beaucoup, beaucoup de gens. T'as vraiment été au cœur, je pense, de ce web réinventé, le web 2, donc le web social.
Absolument. C'était drôle parce qu'en fait, on a eu... la première fois que j'ai rencontré Mark Zuckerberg, c'était à cette